say take me home. I said no, Perignon. You said no, no, no. I said no, 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 no. No, 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 no.
Bonjour à tous et bienvenue dans notre émission Second Life, aujourd'hui lundi 1er décembre, oui début décembre, c'est bientôt Noël. Mais aujourd'hui on va vous parler de l'environnement et du développement durable. Je suis en présence de Morgane, Étienne, Flavie, Adrien, Camille, Valentin, Enzo, Elliot, Valentin et moi-même Dylan. Et on va commencer avec Morgane qui va nous parler de la conférence du 13 novembre, de la COP 21 décembre 2015 Paris et du nucléaire.
Donc oui, donc vous vous souvenez tous, je suppose, du 13 novembre 2014, nous avons été à la conférence environnementale au lycée Funès et Hélène Boucher. Je pense que tout le monde s'en souvient.
Oui.
Et donc, on avait évoqué aussi que en décembre 2015, il y aurait la COP 21 où quelques élèves du lycée Ciel Guillaume iraient participer pour interviewer aussi certains ambassadeurs du monde parlant de l'environnement. Et donc, parmi les thèmes qui vont être exposés, il va y avoir l'électricité. Donc l'électricité, je rappelle, c'est une énergie sous forme de particules ayant des charges positives et négatives qui est énormément utilisée par l'homme. En 2000, 39% de l'électricité mondiale provient du charbon et 17% d'hydroélectricité. Électrique et aussi 17% en nucléaire et de gaz sont utilisés en énergie et par le monde, par les humains, et 8% venant du pétrole et tout le reste, c'est-à-dire 2%, provient des ressources renouvelables. Hélas, c'est très très peu par rapport à ce que nous devrions faire pour la Terre. Et en France, nous consommons 78% d'énergie nucléaire. Et même si le nucléaire est une énergie propre, les déchets rejetés par le nucléaire sont très dangereux. Regarde par exemple au Japon, les conséquences que ça a fait pour l'environnement, c'est assez catastrophique. Mais nous rappelons que maintenant, il y a des améliorations qui sont faites pour diminuer les consommations d'électricité. Par exemple, on a changé les ampoules, on les a remplacées par des LED. On a changé aussi pour les centrales nucléaires, on essaie d'en diminuer un petit peu. On utilise des centrales hydrauliques qui sont un peu moins dangereuses que les centrales nucléaires. Et on a créé les panneaux solaires et les éoliennes qui donnent des énergies très propres. Et les dernières inventions, par exemple, la voiture électrique qui va rejeter beaucoup moins de CO2.
Maintenant, la voiture électrique a quand même un inconvénient, c'est qu'elle se recharge. Donc c'est une batterie qui fait rouler cette voiture. Et la batterie, il faut attendre des heures pour qu'elle se recharge déjà pour commencer. Alors que quand vous allez à la station essence, ça ne prend que quelques minutes de mettre du gasoil. Et puis il y a c'est la batterie. Moi je trouve bien le hybride mi-électricité et mi-gasoil, que la voiture électrique pour moi pour l'instant est un trop gros complexe.
Maintenant le pétrole, le gasoil, ce sont des énergies fossiles et il ne reste plus beaucoup de ressources. Maintenant on en a énormément utilisé ces derniers temps. Donc il faut trouver maintenant des nouvelles solutions. Même si nous devrons toujours utiliser ces énergies fossiles, il faut essayer de trouver un juste équilibre pour essayer de trouver un moyen très propre.
Justement, pour moi, économiser ces énergies fossiles, c'est commencer par l'hybride, justement. C'est moins de consommation de gasoil. Excusez-moi, pour moi, l'électricité la voiture électrique n'est pas la solution. Il y aura forcément des nouvelles méthodes, du gasoil écologique, comme ça peut se déjà à base de par exemple de légumes ou de. Enfin voilà, le recycler la nourriture. Il y aura plein de nouveaux moyens. Justement, il y a beaucoup de recherches qui se font sur ce genre d'études.
C'est vrai.
Qu'en pensez-vous, vous? Notamment Elliot et Enzo qui vont nous parler de la voiture.
L'hybride, c'est un bon compromis entre les énergies fossiles, donc le gasoil et tout ce qui va avec, et l'électricité qui est pour moi pas l'avenir, parce que comme tu l'as dit, il faut mettre 3 heures pour recharger, c'est long. Quand tu pars en vacances, tu vas pas attendre 3 heures.
Oui, il y a déjà beaucoup de routes pour certains qui traversent toute la France.
On y reviendra après.
On y reviendra après, oui.
Non, rien d'autre à dire.
Rien d'autre à dire. Merci Morgane. On va passer avec Étienne qui va nous parler des énergies vertes.
Justement pour conserver et protéger nos énergies fossiles, on a mis en place des systèmes qui permettent un peu de prendre des éléments naturels pour les transformer en énergie. Il y en a tels que l'énergie éolienne qui consiste à transformer l'énergie du vent en électricité, ou encore le panneau solaire qui lui récupère les rayons du soleil pour les transformer en chaleur ou en électricité. Il y a les barrages hydrauliques qui, eux, prennent la force de l'eau afin de les transformer en électricité. Et pour finir, un moins connu, c'est la géothermie. Ça, il suffit, on capte un peu la... On capte donc l'énergie de la Terre et pour la transformer en chaleur. Voilà.
Madame Girel, Barsto, pardon.
Une question, donc les éoliennes, est-ce que vous en voulez chez vous ?
Non, ça fait moche.
Puis ça fait du bruit surtout.
Ça prend de la place, il est vrai que ça fait du bruit, mais je trouve que c'est un beau moyen de produire de l'énergie. La Mayenne est un bel exemple en termes de département, puisqu'ils utilisent beaucoup les éoliennes. Ceci n'a pas l'air de déranger les Mayennais, à condition bien sûr que ce soit en petite quantité et que ce ne soit pas non plus les champs remplis d'éoliennes. Et moi je trouve que c'est une belle source d'énergie. Après, comme ça l'a été dit dans plusieurs débats politiques par rapport au nucléaire, il faudrait des tonnes et des tonnes d'éoliennes et de panneaux solaires pour produire l'énergie que produisent les centrales. Et c'est pour ça qu'il faudra trouver de nouveaux moyens beaucoup plus simples et en moins grosse quantité et surtout beaucoup moins chers. Étienne ?
Il existe aussi des éoliennes dans la mer.
Aussi, oui, comme en Hollande, qui sont un parfait exemple aussi pour l'écologie. Pardon. Ce sera tout ?
Oui. Oui.
Alors, on va passer avec Flavie, qui va nous parler des petits gestes du quotidien pour consommer moins.
Par exemple, ça paraît logique, mais éteindre la lumière dès qu'on sort d'une pièce, c'est important. Il faut aussi penser à couper le robinet d'eau pendant qu'on fait son shampoing, qu'on se brosse les dents. Faut, par exemple, faire sécher le linge à l'air plutôt qu'au sèche-linge. Et ça permet de moins consommer. Faire réparer vos vieux appareils, c'est important. Faut penser au covoiturage parce que ça consomme moins. Il faut s'efforcer de marcher ou de prendre son vélo au lieu de la voiture si vous n'avez pas beaucoup de chemin à faire. Par exemple aussi, éviter de faire chauffer quelque chose alors que vous faites une action pour pas que ça refroidisse et le refaire chauffer. Enfin, ça ne sert à rien. Et tous ces petits gestes, c'est important. Ça paraît anodin, mais c'est important pour... Et c'est essentiel pour la planète. Pour nous, c'est rien, mais pour la planète, c'est vraiment, ça fait l'effet papillon si on fait ça.
Morgane ?
Ça diminue le réchauffement climatique. Donc du coup, par exemple, quand on voit ce qui se passe dans le sud de la France, les accidents, les inondations, avec tous ces petits gestes, ça, comme conséquence, ça fera qu'on va diminuer le réchauffement climatique. Et petit à petit, ça redeviendra peut-être comme avant un jour.
Donc vous avez le sentiment que ces petits gestes peuvent vraiment contribuer et changer quelque chose ?
Oui, sûrement, parce que c'est déjà à cause de l'être humain que le réchauffement climatique s'est installé. Et ça a empiré déjà depuis quelques siècles, depuis le développement de l'industrie, avec les rejets de CO2 et tous les autres rejets de gaz et de déchets. Avant que l'être humain passe à l'industrie, il n'y avait pas cela.
On contribue tous bien sûr à la pollution de cette planète et on peut tous contribuer à ce qu'elle soit beaucoup moins polluée forcément. Maintenant il faut savoir qu'en termes de rejet de CO2, c'est pas la France qui consomme le plus. Les États-Unis consomment près de 22% de CO2, la Chine en est à 21%, alors que l'Europe dans son ensemble ne consomme que 17% de CO2, c'est-à-dire finalement très peu par pays. Je crois que la France consomme 2 à 3% justement de CO2. Donc moi je trouve que la France d'ailleurs fait des efforts de ce côté-là, et l'exemple européen en termes d'écologie et d'essayer de rejeter le moins de CO2, c'est l'Hollande.
Donc c'est bien à vous les Européens donc de montrer le modèle, d'être le modèle.
L'Europe fait des efforts, à l'Amérique, à l'Asie aussi de faire des efforts.
Et une question, est-ce que vous tous, vous recyclez, vous éteignez la lumière, vous arrêtez le robinet quand vous brossez vos dents ? Alors, l'heure de vérité, vous le faites ou pas ?
Aujourd'hui, le recyclage est quasiment obligatoire.
Oui.
Donc.
Moi, personnellement, je fais pas ça chez moi. Enfin, j'éteins la lumière, mais je fais pas tout ce que Flavie a dit, en fait.
Ça a l'air de te faire rigoler, Adrien. Tu le fais
Ouais, moi, j'éteins la lumière quand je sors d'une pièce. Oui. Et puis, j'éteins le robinet quand je me brosse les dents.
Alors, Camille, qu'est-ce que tu attends pour appliquer les bons conseils de Flavie?
Je vais m'y mettre dès ce soir.
Malheureusement, on sera pas là pour vérifier. c'est tout, Flavie?
Oui.
Oui. Alors, on va passer avec Adrien maintenant, qui va nous parler de la déforestation.
Ouais, voilà. Déjà, les forêts dans le monde, ça recouvre 31% de la superficie mondiale. Donc, c'est pas mal. Il y a 60 millions de peuples indigènes qui dépendent entièrement des forêts. Donc, ça sert. Il y a 300 millions de personnes qui vivent dans ou aux alentours des forêts. Il y a plus de. Aussi 1,6 milliard de personnes qui dépendent des forêts pour vivre. Donc nous on en fait partie. Les forêts jouent un rôle important dans la fixation du CO2. Parce que voilà. Il y a 40% du carbone terrestre qui est stocké dans la végétation et dans les sous-sols des forêts. Donc ça c'est pas bon pour les arbres. Les forêts elles apportent des services importants pour la vie sur la Terre. Et la déforestation elle existe depuis des dizaines de millions d'années et elle est devenue massive. Donc c'est important. Et de 1990 à 2000, il y a plus de 14,2 millions d'hectares de forêts qui ont disparu à cause de la déforestation.
Pour ou contre la déforestation ?
Contre.
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 Moi, je suis totalement contre aussi.
Contre.
Contre.
Ouais,
contre.
Moi, je suis pour, à condition que les arbres, justement, qui sont coupés, soient replantés autre part.
Et justement, pour éviter qu'il y ait moins d'arbres coupés, il faut déjà imprimer moins. Ou alors imprimer en recto verso et pas à deux feuilles, par exemple. Il faut acheter des meubles FSC. C'est des meubles, en fait, qui sont fabriqués et qui participent pas à la déforestation. Donc, comme ça, c'est plus pratique pour la vie sur Terre. Et il faut aussi recycler le papier. Et pour finir, chaque année, il y a 80 000 km² de forêts qui sont déforestées. C'est équivaut à l'Autriche.
Mais aussi, il faut consommer moins de Nutella parce que le Nutella, c'est fait avec de l'huile de palme et ça déforeste les forêts d'Indonésie.
Comment résister à un pot de Nutella ?
Ça déforeste. une petite suggestion, en faisant reviser ma fille sur la déforestation, elle devait regarder une vidéo sur YouTube. C'est une émission qui s'appelle Le Dessous des Cartes. Je ne sais pas si vous connaissez. C'est excellent, c'est très court, très synthétique. En 5 minutes, vous avez une explication vidéo sur la déforestation en Amazonie. C'est très intéressant. Donc, Le Dessous des Cartes.
Merci.
Plus rien à dire sur ce sujet ?
Non.
Non ? Alors on va passer avec avec Camille et Valentin, pardon. Gaspillez-moi alimentaire.
Oui, le gaspillage alimentaire qui est à la mode en ce moment parce que beaucoup de médias en parlent. Il faut savoir que 1,3 million de tonnes de nourriture sont jetées chaque année. Cela représente environ un tiers de production totale des denrées alimentaires qui sont destinées à la consommation humaine. Une étude récente indique que 43% seulement des produits cultivés mondialement dans un but alimentaire, sont directement consommés par les humains. Le gaspillage alimentaire des pays riches, ça représente quasiment autant de nourriture, 222 millions de tonnes, que toute la production alimentaire nette de l'Afrique subsaharienne. Donc ça représente 230 millions de tonnes en Afrique subsaharienne. Il y a différents types de gaspillage alimentaire. Donc il y a le food losses, c'est de l'anglais, donc la perte alimentaire, c'est-à-dire les pertes qui se produisent principalement pendant les phases de semis, de culture, de la récolte, et le traitement et le stockage et la première transformation agricole. Et il y a aussi le food waste, donc le gaspillage alimentaire, c'est-à-dire les déchets survenant au cours de la transformation industrielle, la distribution et la consommation finale. Et la consommation, il faut savoir aussi que la consommation est une des premières sources d'émissions de gaz à effet de serre, depuis la production jusqu'au traitement des déchets. Et il faut savoir que gaspiller un pain équivaut à rouler en voiture pendant 2 km 24, allumer une lampe pendant environ 32 heures, ou même faire tourner un lave-vaisselle 1,93 fois. Et gaspiller simplement une tranche, ça peut vous faire rouler en voiture pendant 0,15 km. Mais également gaspiller un steak de bœuf équivaut à rouler en voiture pendant 4 km 89.
Donc le gaspillage alimentaire représente 750 milliards d'euros. Alors au niveau mondial, un quart de la nourriture produite est jetée sans avoir été consommée. Et un quart des pertes de produits alimentaires du monde actuel serait suffisamment pour nourrir les 870 millions de personnes qui meurent de faim, sachant qu'environ un huitième de la population mondiale souffre encore de la faim. Donc il y a des grands distributeurs de magasins qui ont pris des initiatives pour réduire ce gaspillage. Donc ils vendent à petit prix les produits qui arrivent proches de la date de péremption, ou ils les donnent à des associations comme les Restos du Cœur par exemple.
Rien d'autre, pas de commentaires, non? Donc on va passer avec Enzo et Elliot avec les voitures écologiques.
Donc les voitures écologiques, il y a les voitures hybrides et les voitures électriques. Donc je vais vous parler des voitures hybrides. Donc une voiture hybride, c'est une voiture qui est composée de deux stockages d'énergie, donc l'essence ou le diesel, et donc l'électricité. Donc les voitures hybrides ou électriques ont une durée de vie moins longue que les voitures basiques type diesel ou essence. Donc c'est un de leurs points faibles parce que voilà, ça dure moins longtemps, tu peux faire moins de kilomètres. Et je vais ajouter aussi que le hybride se développe puisqu'il arrive dans les voitures de course telles que la F1. Bon, pour ceux qui regardent, ou l'endurance, notamment avec les 24 heures du Mans.
Oui, comme tu l'as dit, aux 24 heures du Mans, il y a par exemple les Audi e-tron Quattro qui sont hybrides, les Porsche 919 hybrides, les Toyota hybrides aussi, ou encore la Nissan ZEODR C qui est une voiture, elle, totalement électrique. Les voitures, elles se développent plus facilement. Les Toyota et les Honda sont les meilleurs constructeurs pour les voitures hybrides.
Toyota qui avait commencé, qui a été les premiers à engager un projet dans l'hybride et qui a sorti d'ailleurs ses premières voitures.
Mais il faut faire gaffe parce que c'est mensonger. J'ai vu sur une étude que la Toyota Prius, donc qui est soi-disant la meilleure voiture hybride, consommerait 6,5 litres au 100.
La première qui avait été sortie, je crois que c'était la Toyota Yaris. Hybride, je suis pas sûr.
C'est Toyota.
En tout cas, c'est Toyota.
Donc vous préférez quoi ? Hybride ou les anciennes voitures essence ?
Bah pour aujourd'hui, les hybrides. Même si les anciennes voitures essence, bah elles ont quand même un charme. Mais aujourd'hui, il faut prendre la réalité en face et pour l'environnement, ça sera les hybrides.
Sauf que le prix est quand même encore très prohibitif. C'est très cher encore.
Du fait de la recherche encore pour les futurs moyens.
Et grâce aux courses telles que la Formule 1 ou l'endurance,
elle va permettre de se développer, oui.
Et ça viendra sur les voitures de série.
C'est un investissement d'ailleurs de la fédération de Formule 1.
Par contre, on peut dire que maintenant la Prius existe depuis pas mal de temps et donc il commence à avoir un marché de voitures d'occasion. Et donc ça va faire baisser le prix des voitures neuves, je pense.
À l'Argus. Pas d'autres commentaires pour l'hybride. Alors je vais passer avec Valentin pour vous parler des infrastructures sportives écologiques. Alors je vais commencer, on va parler des stades, notamment de football, puisqu'il y a eu de nombreux événements, notamment le stade Verdão situé à Cuiabá au Brésil, l'un des stades hôtes de la Coupe du Monde 2014. Ce nouvel édifice peut accueillir 40 000 spectateurs dans des conditions optimales. Totalement modulable, le stade a aussi été pensé pour être fonctionnel après la Coupe du Monde et pourra accueillir notamment d'autres événements comme des concerts par exemple. Le stade Verdão est ouvert, ventilé et composé de 4 tribunes modifiables permettant de réaliser des économies pour l'entretien. Construit au milieu d'un parc, le nouveau bijou écologique du football brésilien s'inscrit dans un plan d'aménagement urbain prenant en compte des problématiques environnementales, le tout pour un coût très économique pour ce genre de construction, 342 millions de dollars. Cela se fait aussi en France. Le stade Océane du Havre, inauguré en mai 2012, est le premier stade à énergie positive en France. Le stade Océane est un stade multifonction de 25 178 places pour le sport. Il est construit à l'emplacement de l'ancienne gare triage de Socon, située sur la rive opposée du stade Jules Deschazeaux. Le financement du grand stade s'élève à un montant total de 80 millions financés pour majeure partie par la CODA, 44,5, mais aussi par le conseil régional de la Haute-Normandie, le conseil général de Seine-Maritime et l'État à hauteur de 0,5 millions. Grâce aux 1500 m² de capteurs photovoltaïques installés sur un toit, le stade produit plus d'énergie qu'il n'en consomme. Le terrain est couvert de 10 736 m² de pelouse naturelle renforcée avec fibres synthétiques. Le synthétique qui se développe aussi beaucoup avec les nouveaux moyens. Plus le synthétique dur, mais maintenant mi-synthétique, mi-terre, pardon. Un peu comme le hybride chez les voitures. Au-delà de l'aspect énergétique, le Grand Stade du Havre entreprend une vision globale de l'écologie et du développement durable. La consommation d'énergie sera tirée au minimum et l'éclairage sera optimisé pour ne pas gaspiller inutilement la production d'électricité du stade. Mais le stade disposera également d'un système de récupération des eaux de pluie permettant une baisse de la consommation d'eau de plus de 90%, donc très économe. Par ailleurs, la gestion des déchets sera prise en compte avec notamment des dispositifs de tri, de recyclage et de compostage. Idem lors du chantier puisque 40% des déchets issus de cette phase ont été recyclés. Enfin, le stade a aussi été conçu pour permettre un entretien facile, notamment grâce aux caractéristiques des matériaux utilisés pour la construction et la finition de l'édifice. Un bel édifice est une référence pour les futurs stades, notamment qui se fait beaucoup en Allemagne. Un autre exemple en France, l'Alliance Riviera de Nice, une enceinte de 35 000 places qui se veut écologique. Il y a eu pas mal de problèmes, notamment par rapport au permis de construire. Mais elle s'est faite dans une zone très polluée, donc à la fin de la rendre écologique. Donc ils ont voulu réaliser une grande zone écologique avec des commerces économes, un stade économe, des habitats économes. Donc le choix de la structure en bois plutôt qu'en métal est ainsi censé permettre une réduction des émissions de CO2. Donc c'est le choix, la structure pour le toit du stade. Des panneaux photovoltaïques d'une surface totale de 7 500 m² ont aussi été posés sur le toit. Le stade devrait produire 3 fois plus d'énergie qu'il n'en consomme. De plus, la ventilation des locaux est présentée comme étant naturelle et devrait utiliser les vents de la plaine du Var pour rafraîchir l'air par le biais d'un système de murs soufflants. La membrane pré-contrainte Serge Ferrari utilisée en toiture est 100% recyclable et éco-conçue. D'autres projets de stades sont prévus, comme ceux de la Coupe du Monde 2022 au Qatar, qui prévoient des stades climatisés d'une température ne dépassant pas 26 degrés, ce qui fait quand même beaucoup pour un pays très chaud. Et pourquoi pas en 2024, après Londres en 2012, dont Valentin va vous parler. Si la France décidait de se porter candidate et était nommée ville hôte de voir des JO écologiques à Paris.
Alors moi je vous parlais du stade qui a accueilli les Jeux Olympiques de Londres. Le parc olympique a résolument été conçu dans une optique verte. Le développement durable est au cœur du projet du site. Avant que le parc olympique sorte de terre, une zone industrielle occupait la place. 2 millions de tonnes de sol pollué hérité des usines locales ont été nettoyées afin de construire le parc sur un terrain propre. De plus, une grande partie des installations a été construite à l'aide de matériaux recyclés issus de la démolition du site précédent. Autre prouesse écolo, le vélodrome qui a accueilli les épreuves de cyclisme sur piste, son architecture particulière de Pringles, comme vous connaissez, la chips, surnommée ainsi par les londoniens sous la forme de chips, permet une ventilation du vélodrome quasi naturelle. Le design courbé du toit de l'installation recueille la pluie et économise jusqu'à 70% de la consommation du site, la pièce maîtresse du parc olympique, sans quoi les jeux ne seraient pas les mêmes. C'est la centrale électrique. Fonctionnant depuis 2010, l'installation produit de l'énergie renouvelable et réduit les émissions de carbone de tout le parc. Le chauffage, le refroidissement et l'électricité sont assurés par l'usine aux airs Victorien. D'autres bons points, l'usine sera utilisée par les Jeux Olympiques et fournira de l'énergie à 20 000 foyers de l'Est de Londres. Côté transport, il n'y a pas eu de parking pour les automobiles. Voilà un choix qui aurait pu en énerver plus d'un. Mais la ville de Londres a fait le pari des vélos et des transports en commun pour favoriser le déplacement propre durant les Jeux. Ce sont 18 000 places de stationnement gratuites pour les vélos qui ont été créées sur les différents sites olympiques. S'ils ne sont pas adeptes de la petite traîne, les spectateurs ont pu soit emprunter de nombreuses allées piétonnes, soit des transports en commun. Quant aux athlètes et aux officiels, ils auront pu se déplacer dans des véhicules électriques, mais à leur disposition. Des futurs logements sociaux ont été construits pour accueillir les 204 délégations sportives et les 400 000 visiteurs prévus pour l'ensemble de la compétition. Les organisateurs ont construit un peu moins de 3 000 logements. 4 800 étaient prévus et un bol de verdure. L'un des souhaits du WWF et de Biorégional était de pouvoir bénéficier en plein cœur du village olympique d'une enceinte verte destinée à la biodiversité.
Donc on voit justement des structures modulables, démontables aussi, donc notamment qui vont être utilisées pour les Jeux Olympiques au Brésil. Donc ça a été des Jeux Olympiques réussis déjà de une, et puis sur lequel il y a eu un héritage donc, dont les Anglais espèrent le plus grand bien. Il y a juste des choses qui sont un peu dommages d'après moi, c'est le stade olympique qui a été diminué, donc passé de 80 000 à 50 000 places, et qui doit accueillir le club de foot de West Ham. C'est dommage de démonter la structure, puisque du coup c'est une perte de temps et du gaspillage. Et puis aussi les nombreux stades dont je vous ai parlé, notamment au Brésil, ou encore le stade Océane, et même de Nice, dont le remplissage n'est pas énorme. Et de nombreux stades aussi au Brésil ont été construits à des endroits où il n'y avait pas du tout de club de foot autour. Donc après l'utilisation de ces infrastructures, à voir d'ici les prochaines années. Pas de questions ? Non ? Alors je vous...
Simplement un commentaire, donc je trouve dans le domaine du sport, ça progresse énormément. Donc c'est un beau modèle. Très bien.
Donc je vous remercie. Donc vous étiez dans Second Life aujourd'hui, le lundi 1er décembre. On vous a parlé de l'environnement. La semaine prochaine, on vous parlera donc des sports. J'étais en présence donc de Morgane, Étienne, Flavie, Adrien, Camille, Valentin, Enzo, Elliot, Valentin et moi-même, Dylan. On se retrouve la semaine prochaine. Vous étiez dans Second Life, fréquence Tillet, 97.9 FM.
À bientôt. Au revoir.